La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu de prière. Nous sommes rassemblés ce matin, comme chaque fois, pour célébrer un culte rendu à Dieu seul, exprimer notre reconnaissance en lui et aussi dire ce qui nous anime, pouvoir revenir sur nos propres vies. Si ce matin c'est un culte commémoratif, car c'est une date importante pour l'histoire des protestants de France, le 24 août 1572, le quartier était dans une effervescence terrible, pour des faits terribles. C'était le début du massacre de la Saint-Barthélemy. Si nous sommes ici ce matin, nous ferons mémoire en effet ensemble, mais cela reste un culte rendu à Dieu seul, et à Dieu seul revient la gloire. Je vous accueille donc au nom de l'Oratoire du Louvre pour tous ceux qui viennent de loin, tous ceux qui poussent la porte de ce temple pour la première fois. Soyez les bienvenus ici, soyez ici chez vous. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle, et nous chantons le premier chant du livret qui est inséré au début des psautiers. Et vous pourrez ainsi suivre le déroulement de ce culte. Nous louons le Seigneur ensemble. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. L'aile de la nuit s'est éloignée et je me suis réjouie dans la lumière. Voici un jour nouveau, un jour encore, Seigneur. Je suis dans la joie, Seigneur, dans la joie. Tous les jours, par ta grâce, c'est Noël et c'est Pâques, c'est l'Ascension et c'est Pentecôte. Voici un jour encore qui brille, étincelle, éclate de bonheur à cause de ton amour, Seigneur. Chaque jour est ton œuvre et chacun est compté comme les cheveux de ma tête. Alléluia. Je vous invite à chanter ensemble notre louange avec le psaume 68 et nous chanterons les 5 strophes de ce psaume dans le psautier. Ah pardon, la version B, 68B. Je vous invite à vous asseoir. Dans l'évangile de Marc, le Seigneur rappelle les commandements. Et voilà la volonté de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que cette volonté du Seigneur nous guide et que nous puissions vivre selon ses commandements. Nous chantons ensemble. Alors, je crois qu'il y a une erreur. Voilà, j'en profite pour vous signaler que ce matin, nous avons un organiste qui a eu la bonté de venir remplacer l'organiste qui était prévu, qui était Alexandre Korovitz ce matin, parce qu'Alexandre, malheureusement, a un deuil dans sa famille. Donc, merci à Arthur d'être avec nous ce matin, mais c'est la première fois qu'il accompagne le culte à l'oratoire. Je vous invite à nous rassembler ensemble dans la grâce du Seigneur et à lui dire ce qui nous sépare de lui, afin de pouvoir renouveler cette alliance toujours promise pour nous. Seigneur, pardonne nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Et pardonne-nous d'avoir restreint notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous, Seigneur, notre médiocrité, nos manques d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses et aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Apprends-nous à pardonner sans blesser ceux à qui nous pardonnons. Par le Christ, notre frère. Amen. Dieu regarde ses enfants et renouvelle pour eux sa grâce. Nous sommes dans la grâce du Seigneur. Il nous pardonne, il reprend tout ce que nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Il nous aide à changer en nos cœurs. Et il nous annonce, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Avance en paix. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre reconnaissance. Nous partageons une confession de foi parmi toutes celles qui existent de par le monde. Je vous invite à partager ces mots ce matin. Nous croyons en toi et nous t'appelons Père, parce qu'un jour un homme qui croyait en toi est devenu ton fils, par l'amour inconditionnel que tu lui as révélé. Il a annoncé ta grâce à ce monde. Nous croyons en Jésus et nous l'appelons Christ. Et comme lui, nous voulons accueillir, bénir, guérir les hommes que toi, tu mets sur nos chemins. Nous croyons que tu rends possible la communion entre les hommes par ton Esprit Saint. Et nous voulons construire la paix entre les hommes pour la gloire de ton nom. Malgré la mort scandaleuse de ton Fils Jésus, nous voulons croire contre le mal au salut que tu promets. Et comme lui, nous nous efforçons d'annoncer ta grâce. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir et nous allons ensemble entendre le passage biblique médité ce matin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, des versets 27 à 36. Jésus parle et il dit « Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Je vous invite à chanter le cantique 229, les strophes 1, 2, 3 et 4 dans les louanges et prières. Nous prions ensemble. Et je vous propose ce matin une prière de Saint Hilaire. Donne-moi, Seigneur Dieu, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité, afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes. Ô Seigneur, c'est par ta beauté que tu révèles ta grandeur. Ô Seigneur, c'est à travers l'homme que tu révèles ton amour. Seigneur, gonfle les ailes de ma foi pour que je puisse prêcher partout le nom de Dieu. Seigneur, délie ma langue pour que je fasse honneur à ton saint nom. Seigneur, éclaire mon esprit pour que je révèle à tous ceux qui l'ignorent ce que tu es, toi le Père du Fils de Dieu. Aimez vos ennemis, soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Voilà un commandement qui nous pose bien des problèmes. Comment aimer ses ennemis? Est-ce même légitime d'aimer ses oppresseurs? Où est la justice quand l'ennemi devient aimable? Ce texte de l'Évangile aurait dû interdire toute guerre de religion à travers l'histoire du christianisme, et surtout celles qui ont opposé des chrétiens à d'autres chrétiens. Ce commandement aurait dû empêcher le roi catholique Charles IX en 1572 de décider le meurtre des chefs protestants et plus tard de laisser faire le massacre du 24 août qui ensanglanta les eaux de la Seine. Aujourd'hui, commémoration de ce jour terrible pour Paris, puis pour la France entière, et qui fut donc suivi de 5 autres jours terribles dans les provinces de France, ce déferlement de violence apparaît comme, quoi qu'en puisse expliquer la chronologie des faits historiques, une énigme. Pourquoi tant de violence, tant de fureur entre des gens qui vivaient alors les uns avec les autres ? En effet, comment entre le 18 août 1572, date du mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, et le 24 août, date du massacre, les catholiques et les protestants présents à Paris ont-ils pu devenir des ennemis mortels au point qu'un véritable génocide soit lancé et ait lieu? Bien sûr, il y avait eu des guerres de religion avant, je crois qu'il y en avait eu déjà 3. Avant cela, qui avait opposé les deux parties. Mais de pacte de paix en négociation diplomatique, on avait fini par vouloir une concorde. Et il semble bien qu'on l'ait voulu vraiment, jusqu'à la célébration d'un mariage qu'on dirait mixte aujourd'hui, pour lequel le pape lui-même n'avait pourtant pas donné sa dispense et qu'on a célébré quand même. Il avait donc fallu braver un interdit de taille. Preuve qu'on cherchait à toute force la concorde, quoi qu'en pense le pape. Le jour des noces, le roi et ses frères avaient donné une représentation théâtrale avec Henri de Navarre et les gentilshommes protestants, et tous avaient participé ensemble dans une grande gaieté, dans une pièce de théâtre montrant la concorde retrouvée entre les deux camps et montrant aussi la clémence du roi à l'égard de tous ses sujets, protestants ou catholiques. On avait fait la fête ensemble, sans plus de méfiance. Pourtant, une semaine plus tard, les mêmes ne pensaient qu'à en découdre. D'abord, après l'attentat qui blessa l'amiral de Coligny, les gentilshommes protestants avaient programmé de se venger. Puis les catholiques entourant le roi avaient voulu tuer tous ceux qui pourraient s'en prendre au roi et avaient décidé de liquider préventivement tout risque de rébellion des protestants en organisant le meurtre des chefs huguenots présents pourtant au Louvre et étant les hôtes du roi, logés au Louvre ou dans le faubourg Saint-Germain. Dans l'Évangile, le Christ dit « Aimez vos ennemis ». Mais qu'est-ce qu'un ennemi ? De quoi parle-t-on quand on parle d'ennemi ? À partir de quand l'autre, celui avec lequel on pouvait cohabiter sans plus de difficulté, devient un ennemi ? Par quel mécanisme fabrique-t-on un ennemi ? Car il s'agit bien là d'une fabrique. Dans une communication sur la notion d'ennemi dans le Proche-Orient ancien, le bibliste Dan Inokay montre comment se construit la figure de l'ennemi dès les temps les plus anciens. Et l'on s'en rend compte que la façon de faire n'a pas vraiment changé entre ces temps très anciens, le temps où vécut le Christ, puis le temps où vivait Gaspard de Coligny et le temps où nous vivons aujourd'hui. Toujours le même mécanisme. Dans les textes de l'Égypte ancienne, par exemple, l'ennemi est toujours l'étranger, celui qui est autre, qui a d'autres mœurs, d'autres façons de se comporter, qui vient d'ailleurs. Et dans l'Égypte ancienne, il est l'étranger, il représente le peuple voisin, celui qu'il faut combattre et si possible qu'il faudra envahir et soumettre. L'ennemi est toujours méchant, tortueux, traître, rebelle dans ces textes. On le traite avec mépris, il ne sait pas vivre en quelque sorte. Dans ces textes égyptiens, c'est la nature mauvaise des ennemis qui les fait conspirer contre le pouvoir du pharaon, donc l'ennemi est toujours dangereux. Cette conception sert les intérêts du pouvoir dominant et permet de justifier une politique expansionniste pour l'Égypte à cette époque-là. Comme le pharaon a une fonction de garant de l'ordre cosmique, les ennemis sont ceux qui troublent cet ordre en résistant à la souveraineté. Ils sont donc ennemis du roi, mais aussi du cosmos tout entier. Ils créent le désordre. Ils troublent l'ordre politique, mais aussi l'ordre cosmique. L'ennemi appartient à la fois à l'ordre politique humain et à l'ordre religieux, divin. Dans cette idéologie, combats mythiques et champs de bataille sont donc indissociables. Dans le monde assyrien, l'ennemi est celui qui ne fait pas ce qu'il faut. Il viole le pacte tissé avec le roi d'Assour et il oublie sa bonté passée. Il est donc dans un manque de reconnaissance à l'égard de celui qui lui a fait du bien. Et dans le même temps, il fait ce qu'il ne faut pas faire. Il ment, il complote, il se rebelle. Très souvent, les grandes puissances qui envahissent les petits royaumes se présentent comme leurs bienfaitrices et prétendent leur faire une grâce en les traitant de façon à les traiter de vassals, en faisant d'eux ceux qui leur sont inférieurs, en traitant avec eux des pactes de paix où c'est quand même la grande puissance qui dirige, oubliant que les peuples asservis y perdent quand même au passage leur liberté. Quand les rois des royaumes asservis, les vassaux se rebellent et tentent de faire valoir leurs droits, ils sont traités de traîtres, de rebelles, de méchants. L'ennemi est donc une figure construite dans un but d'hégémonie et de vassalisation de peuples jugés inférieurs à la grande puissance. Et dans ces textes très anciens, on le voit très nettement. Lisons ce que dit Assurbanipal au 7e siècle avant Jésus-Christ. Après cela, tous les rois que j'avais désignés ont brisé les serments jurés avec moi. Ils n'ont pas gardé les accords jurés par les grands dieux. Ils ont oublié que je les avais traités avec douceur et ils ont conçu le mal. Ils ont donc comploté. Ils ont parlé de rébellion et ils sont venus, entre eux, à une décision impure. On voit là comment le divin et l'humain est mêlé et comment les choses politiques se mêlent tout à coup aux choses des dieux. De même, dans notre histoire, deux jours après la Saint-Barthélemy, le roi Charles IX va justifier sa décision. « Tuez-les tous et qu'il n'en reste aucun pour me le reprocher », avait-il dit. Il avait dit ensuite, devant le Parlement de Paris, qu'il avait usé du glaive que Dieu lui avait mis entre les mains à la conservation des bons. Il avait opposé la vengeance et l'extermination des méchants. Lui aussi présenta les protestants comme les méchants, sans se souvenir qu'un attentat avait bien failli tuer leur chef et qu'ils avaient des raisons de ne plus avoir confiance dans le pouvoir du roi. Catherine de Médicis, pour sa part, racontera que Gaspard de Coligny, ayant choisi de se comporter en rebelle à l'autorité royale, il était donc légitime de l'empêcher de nuire. Elle dit de lui qu'il se comportait en voisin dans le royaume plutôt qu'en sujet du roi. Il était donc dans une attitude d'étranger d'autre. Le même mécanisme est manifeste ici. Le parti protestant, avec une puissance et une autonomie qui lui permettaient de lever une armée, et comme Coligny le souhaitait ouvertement, de venir en aide aux protestants des Flandres qui se battaient alors contre le roi d'Espagne, cette façon de se comporter sans se soumettre au roi de France revenait à trahir le roi et son pouvoir. Les protestants de France étaient déjà vus comme des étrangers pour d'autres raisons, du moins comme des personnages étranges la plupart du temps. En effet, si politiquement on les rapprochait des conjurés de Suisse, partisans d'une république, leurs usages religieux donnaient lieu à toutes sortes de rumeurs. Comme ils ne pouvaient pratiquer leur culte que la nuit, on les accusait de s'adonner à des pratiques occultes et on les disait, dans certaines provinces de France, les sujets du roi Hugon, figure diabolique qui faisait peur aux plus crédules. De là peut-être le nom de Huguenot, choisi comme sobriquet par leurs détracteurs. Ainsi était-il ennemi de l'État, mais aussi de Dieu. On retrouve ici les mêmes arguments que dans les écrits politiques les plus anciens. Il faut à tout prix fabriquer l'ennemi. L'ennemi, quand il est extérieur, est l'autre négatif, la face sombre du monde. Il est à la fois celui qu'on envie et en même temps celui qu'on veut éliminer ou soumettre. L'ennemi légitime par sa vilenie la guerre et la conquête et il participe à construire ce que certains appellent l'identité nationale d'un peuple contre un autre. Il marque les contours du peuple civilisé, supérieur, capable de dominer les autres. Et le combat contre l'ennemi est donc l'imitation de l'œuvre divine, d'ordonnancement du cosmos contre le chaos. Massacrer les protestants revenait pour le peuple de Paris à purifier la nation de ceux qui troublaient la belle unité nationale. La particularité de l'événement de la Saint-Barthélemy est que l'ennemi, d'habitude extérieur, était ici intérieur, puisque les protestants massacrés ce jour-là étaient français, mais pourtant vus comme des étrangers. La dimension européenne de la réforme y est sans doute pour beaucoup dans cette perception, et l'amiral de Coligny est un exemple de ces protestants toujours tournés vers l'extérieur, contraints par l'histoire à se tourner vers d'autres contrées que la France, pour trouver des alliés. On voit mal dans ce contexte comment l'amour des ennemis aurait pu avoir cours. Bien sûr, quelques personnes catholiques de bonne volonté se montrèrent charitables le jour même et cachèrent des protestants qui leur étaient proches pour leur épargner une mort violente. Mais dans la grande majorité des cas, malheureusement, la rage des Parisiens fut une terrible œuvre collective, mue par la haine et la peur de l'autre. Il existe une autre voie pour traiter la question de l'ennemi, c'est celle plus individuelle de la sagesse. On parle alors d'un ennemi intérieur, celui qui divise, ou celui qui est mon prochain, très direct, et qui en appelle à ma conscience individuelle. Et dans les écrits très anciens, on retrouve le même appel qu'on trouve dans l'Évangile à la magnanimité que celui, cet appel de Jésus. En effet, au niveau individuel, on trouve dans les sagesses du Proche-Orient ancien des proverbes qui invitent chacun à ne pas user de représailles contre les ennemis. Comme par exemple ce texte issu de la collection de proverbes datant de l'époque perse, sous le roi Sargon II au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Il est écrit « Confronté à une dispute, va-t'en, ne t'en occupe pas. Si la dispute te concerne, éteins ce qui s'enflamme. Car la dispute est une fausse grande ouverture, un mur instable qui ensevelit son ennemi. On se rappelle ce qu'un homme a oublié et on l'accuse. À ton adversaire ne rends pas le mal. À celui qui te fait du tort, fais du bien en échange. À ton ennemi, laisse la justice se faire. Laisse ton oppresseur se réjouir à ton sujet et s'il te jalouse, fais-lui des largesses. » Vous voyez, l'histoire est déjà ancienne de cet amour des ennemis. On retrouve ici le même discours que celui de Jésus, et cela répond à une autre logique que la logique politique. Il n'y a plus ici de dimension collective, mais une relation entre deux personnes. Et le moyen de sortir de la haine et de représailles, c'est de s'en remettre à Dieu, car lui seul établit la justice. L'ennemi est ici aimé au nom de Dieu. Il est celui que Dieu aime autant que soi-même. Puisque Dieu est bon pour les ingrats et pour les mauvais, comme il est dit dans l'Évangile de Luc, qui serais-je pour juger l'autre et distribuer les sanctions ? Laisse faire la justice, dit ce texte. Évidemment, l'on imagine ici la dimension intérieure de l'ennemi. C'est ici le prochain, celui avec lequel on vit chaque jour, celui qui partage la même culture, peut-être la même langue, le même Dieu. En tout cas, c'est celui qui se présente à moi. Les méchants pourront argumenter en disant que le commandement ne vaut que pour ce cas-là et qu'il est impossible d'avoir le même raisonnement avec des gens complètement extérieurs. Mais comment la sagesse de chaque individu pourrait-elle agir au niveau des États ? Le commandement d'aimer ses ennemis ne vaut-il pas toujours uniquement pour des individus, pour la conscience individuelle ? Aujourd'hui, notre monde est ouvert, pluriculturel, et la mixité est partout. Nos États sont traversés par les cultures multiples de tous ceux qui les traversent. Il est donc nécessaire d'entendre ce commandement sans en cacher l'exigence. L'ennemi, l'autre que tu construis comme adversaire parce qu'il est différent, Dieu te commande de l'aimer et de lui faire du bien quand il t'a fait du mal, même là. Quoi qu'il soit hors de tes frontières ou qu'il soit dans ton cercle de proches, il est à aimer. Il faut donc se défendre de fabriquer des ennemis en son fort intérieur. Et il faut se défendre aussi des politiques qui les fabriquent. Mais combien de sagesse faut-il pour y parvenir ? L'Ecclésiaste ne dit-il pas lui-même « Aucun homme n'est assez juste sur cette terre pour faire le bien sans péché ?» Pourtant, Jésus demande à ses disciples de ne pas rendre le mal pour le mal et de casser le cercle infernal de la violence en se montrant magnanime, comme Dieu est magnanime. Cette voie est difficile sans doute, car elle nécessite de renoncer à une justice de la rétribution pour entrer dans une autre logique, celle de la construction d'un avenir durable, dans la confiance, avec l'autre et avec Dieu. Alors, dans cette perspective, quelle réparation est possible après un génocide ? Quel avenir commun est envisageable avec la guerre, après la guerre civile ? Comment d'ennemis qu'on était, en vient-on à se considérer comme voisins pacifiques ou comme concitoyens ? C'est le défi que se sont donné à eux-mêmes de nombreux peuples de par le monde, aujourd'hui, après des situations de guerre civile ou de situations de rupture entre des populations qui devaient partager le même lieu. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Rwanda, je pense à l'Irlande et d'autres encore auxquelles vous, vous pensez dans votre fort intérieur. Mais c'est vrai aussi pour les guerres entre États. À partir du moment où ils se donnent ensemble un espace commun à habiter pacifiquement, il est possible de penser cette même façon de renoncer à l'agression de l'autre. La construction européenne a permis la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Elle a été de concert avec cette réconciliation, par une décision de faire de l'étranger et de l'ancien adversaire un proche, un ami, un peuple frère. Peut-être que vivre ce commandement d'amour des ennemis est-il possible, d'une part par la loi, mais aussi en ouvrant une voie entre mémoire et oubli. Mémoire, comme nous le faisons aujourd'hui, afin de rester vigilants sur notre avenir politique et pour rester attentifs au respect de ce qui est autre pour nous, mais qui a sa place dans notre espace commun. Ne pas être dupe de nos fabrications d'ennemis, en quelque sorte. Non pas une mémoire de martyr qui brandit la violence passée comme justification identitaire, mais comme celle de témoins d'une histoire qui puisse nous aider à tendre vers la sagesse et interdire tout recommencement de la violence. Nous devons témoigner, mais ne pas sans cesse nous identifier aux victimes passées. Mémoire donc, mais aussi oubli. Oubli des affronts, des outrages du passé, en hommes et en femmes d'un temps nouveau, ouvert vers l'avenir, ouvert à l'écriture d'une autre histoire avec les descendants des ennemis du passé. Voilà notre tâche, toujours à recommencer, car elle est toujours en danger. Il se peut toujours que nous construisions de nouveaux ennemis. Mais cette voie sans doute entre mémoire et oubli que Gaspard de Coligny, dont nous fêtons cette année le 500e anniversaire, nous a montré dans ce testament qui lui est attribué et qui veille comme une bénédiction au chevet de ce temple. J'oublierai bien volontiers toutes choses qui ne toucheront que mon particulier, soit d'injures et d'outrages, pourvu qu'en ce qui touche la gloire de Dieu et le repos public, il puisse y avoir sûreté. Que cette sûreté entre nous nous permette de vivre en paix et que nous soyons toujours vigilants à savoir oublier les affronts et garder en mémoire les terribles heures que nous avons pu vivre dans notre pays. Amen. Je vous invite à chanter ensemble le 297, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces.
Bonjour à tous et chacun et à chacune. Bienvenue à l'oratoire. Merci à Béatrice Cléromazir, notre pasteur, pour cette prédication. Et le texte de la prédication se trouve sur les tables à la sortie du culte. Vous pourrez prendre les textes et les relire parce que je pense qu'elles méritent relecture et méditation. Merci également à Arthur Nicolas Nauch, notre organiste. Comme vous l'a expliqué Béatrice, il remplace au pied levé et j'essaie de l'accompagner à la tribune pour nos chants. Merci beaucoup de ce dépannage et d'animer musicalement ce culte. Dimanche prochain, c'est Agnès Schaeffer, Adeline Schaeffer, qui présidera ce culte. À l'issue de ce culte, vous le savez, nous aurons un petit moment pour commémorer Coligny. Je reviendrai vers vous si après le service de Sainte-Seine, après avoir entendu la pièce que jouera Arthur pour clore ce culte, je reviendrai vers vous, je vous expliquerai le déroulement de ce moment, de ce temps de recueillement où nous avons l'habitude d'aller déposer une gerbe au pied de la statue de Coligny, non pas pour honorer Coligny en tant que Coligny, mais pour les 3000 protestants qui sont morts ce jour-là. À partir de la semaine, pour cette semaine va être encore calme à l'oratoire. À partir de vendredi, vous recevrez, pour ceux qui sont inscrits, la newsletter avec la reprise de toutes les activités de la paroisse qui vont reprendre progressivement à partir de la semaine, non pas prochaine, mais la semaine suivante, début septembre. Voilà pour l'essentiel. Sachez que les travaux continuent dans la maison presbytérale, les importants travaux de rénovation, et que je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'il y aura, comme lorsqu'il y a des travaux, un petit peu de retard, mais nous allons essayer de le rattraper le plus vite possible. Merci de votre attention, et c'est maintenant...
Peut-être ajouter que comme il y a eu beaucoup de travaux dans la maison presbytérale, vous le savez, évidemment, les finances sont très justes, Donc voilà, je vous dis ça juste avant la collecte pour vous rappeler qu'il faut continuer à soutenir votre église pour qu'on continue ici à avoir des locaux décents pour accueillir des activités qui puissent faire avancer l'annonce de l'évangile et un évangile qui puisse être annoncé de façon libre. Donc je vous remercie pour votre générosité en ce moment de collecte. Merci beaucoup.
Dernière petite annonce. Peut-être certains d'entre vous connaissez M. Niels-Jacques Mermier, qui est décédé. Un service d'action de grâce. Il fréquentait l'oratoire depuis quelques années. Il avait fréquenté les Batignolles avec son épouse, puis il s'était rapproché de l'oratoire. Un service d'action de grâce aura lieu le samedi 28 septembre à 15h au temple des Batignolles. Merci de votre attention et bon dimanche.
Nous louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon du péché. » Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous invite à la prière. Père invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que la lumière illumine les temps à venir. Que ta parole retentisse pour annoncer ta paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent. Que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission, particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons, Seigneur, chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin. Car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade et le mourant, et donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne l'endeuillé et rends-nous présents à sa peine. Encourage le chômeur, celui qui se sent inutile, oublié, et apprends-nous à partager son souci. Conduis tous les enfants dans l'espérance, par ton esprit, et aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité. Dispense ta sagesse à tous les responsables politiques, économiques et sociaux, et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, qui mettent l'Évangile au cœur de leur vie et du monde. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous vivions avec eux dans la compréhension et l'amour. Et nous pouvons te prier, et je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Vous êtes tous les bienvenus autour de cette table. Comme l'espace est petit, il y a donc une façon de faire ici particulière et donc nous ferons plusieurs cercles consécutifs de Sainte-Seine. Je vous invite à partager ce repas et je vous invite à faire cercle autour de cette table pour un premier service. Pour les personnes qui ne consomment pas du tout d'alcool, il y a du jus de raisin proposé. Il suffit de se manifester, nous vous l'apportons. Il y a encore beaucoup de place. Le pain que nous partageons est signe de la présence de Jésus, le crucifié. Le vin que nous partageons est le mémorial du sang du Christ, le ressuscité. Allez, frères et sœurs, avec la force que le Seigneur vous a donnée, je vous invite à regagner vos places. Allez, frères et sœurs, avec le Seigneur pour compagnon de route. Je vous invite à vous regagner vos places. Frères et sœurs, vous allez maintenant être envoyés hors de ce lieu avec ce que vous avez reçu ce matin. Que ce chemin soit un chemin où vous puissiez dire à ceux que vous rencontrez combien l'amour de Dieu est grand. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur qui fait grâce sans cesse et nous invite à faire grâce nous aussi sans cesse, nous bénit et nous garde. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir pour entendre la pièce qu'a choisie l'organiste pour nous ce dimanche. Et ensuite, nous sortirons dans le petit jardin qui est derrière le temple pour aller effectuer cette commémoration devant la statue de Coligny, qui a été rénovée grâce à la généreuse donation d'un mécène qui n'a pas souhaité être nommé, mais en tout cas, nous les remercions chaudement et nous sommes très heureux d'avoir des soutiens qui parfois viennent au-delà de nos frontières pour venir entretenir ce patrimoine qui sert aussi à notre mémoire. Merci.